Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci d'être sur RTL ce matin. Démarrage du bac 2019, lundi avec la philo, l'épreuve de philosophie. On entendait des enseignants dans le journal de 7h tout à l'heure sur RTL justifier leur grève de la surveillance ce lundi justement. Vous maintenez, vous, que ça va se passer normalement lundi, malgré cette menace?
Oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est mon premier devoir en tant que ministre de l'Éducation nationale de faire qu'il en soit ainsi. Donc nous nous sommes organisés pour que les choses se passent normalement, quels que soient les troubles ou les abstentions que certains veulent pousser. Mais vous savez, j'ai une grande confiance dans les professeurs de France. Les professeurs sont des personnes responsables qui amènent leurs élèves jusqu'au baccalauréat. Ils n'ont aucune envie de saboter le moment auquel ils les ont préparés. Donc c'est une petite minorité qui fera grève, qui se fait beaucoup entendre, je vous l'accorde, dans les médias. Mais pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des élèves. Et je sais que ce qui intéresse les professeurs, c'est l'intérêt des élèves aussi.
Ça met de l'intention quand même. Ça met un peu plus de tension que d'habitude à l'Éducation nationale, en termes d'organisation.
Certains cherchent à mettre de l'attention d'une manière disproportionnée par rapport à ce qu'ils représentent. Hein, il faut bien le dire.
Vous avez une évaluation?
Non, on le verra lundi, mais je pense qu'il y aura peu de grévistes et surtout, de toutes les façons, nous compenserons les grévistes qu'il pourrait y avoir par d'autres personnes. Et donc l'examen aura lieu normalement. Moi, je pense aux élèves, point à la ligne. Ce qui m'importe, c'est d'envoyer aujourd'hui même un message aux élèves et aux familles leur disant le baccalauréat se passera de façon normale et au passage je vous adresse des vœux de réussite.
C'est une grève contre la réforme du bac, pour de meilleurs salaires aussi. Vous dites cette pression ne sert à rien et de toute façon je ne travaille pas sous la pression. Ce sont vos mots. C'est pardon un peu court comme réponse à une question dont vous dites vous-même qu'elle est tout à fait légitime, c'est-à-dire la question des salaires à l'Éducation nationale.
Je n'ai pas dit que ce que vous venez de rappeler et c'est justement une réponse d'ouverture puisque ce que je dis à tous les professeurs, c'est le sujet de la rémunération, je l'ai entendu. Et le président de la République aussi l'a entendu, il l'a dit lors de la conférence.
Il a fait le constat, vous reconnaissez qu'il y a un souci, qu'il y a un constat.
Mais bien entendu, je le fais. Ouais. Donc, si vous voulez, quand on essaye de me décrire comme étant fermé ou même autoritaire, alors même que j'ai parfaitement entendu ce message et je lui ai donné toute légitimité en reconnaissant que oui, il y a un problème. Et si le président de la République en a parlé en conférence, c'est un problème qui se pose depuis plusieurs décennies. Et nous sommes en train de dire que nous allons commencer à le résoudre, certainement pas du jour au lendemain, personne ne peut imaginer ça. Simplement, donc les syndicats sont reçus, nous travaillons sur le sujet, nous y travaillons avec le ministère de l'économie, j'en ai parlé beaucoup avec le président de la République et avec le Premier ministre, donc ce sont des sujets sérieux, et c'est pour ça que je dis que je ne travaille pas sous la pression, parce que c'est un sujet qui va prendre des mois, avec du dialogue social, ça ne sert absolument à rien de menacer d'une grève le baccalauréat, de pénaliser les élèves en les angoissant sur le sujet, alors même que nous avons... encore une fois, du dialogue social sur ces questions.
Vous jugez sévèrement cette grève de lundi.
Bien sûr, et d'ailleurs, tous les syndicats n'appellent pas à la grève. Je pense à des syndicats comme l'UNSA ou le SGEN-CFDT, qui sont des syndicats importants dans l'éducation nationale et qui ne tombent pas dans ce travers. Je crois même que même Force Ouvrière, je crois, n'appelle pas à la grève. Donc il faut, évidemment, sans parler de tous ceux qui considèrent, par exemple, vous avez une organisation lycéenne, deux organisations lycéennes, Avenir Lycéen et le SGL, qui disent que c'est absurde de faire cela.
Il y a une forme d'archaïsme dans ce mode d'action.
Simplement, les médias parlent plus. Il faut l'en convenir de ceux qui appellent à la grève.
Parce qu'il y a une forme d'inquiétude que ça entretient. Et donc, légitimement, on veut informer les auditeurs de la réalité. On verra ça lundi matin. Mais vous négociez avec Bercy, j'imagine, pour le prochain budget. Quel est votre objectif? Quelle est la volonté du ministre de l'Éducation nationale de faire avancer, dès le prochain budget, cette question salariale?
Ma volonté, elle est totale. Elle s'exprime d'ailleurs dès le budget 2018 et aussi dans le budget 2019, puisque nous avons... certaines évolutions de carrière, ce qui m'a permis de dire à votre micro la dernière fois que nous avons une augmentation des professeurs des écoles débutants de 1000 euros entre 2017 et 2022. Donc c'est un sujet sur lequel on a déjà travaillé, mais on doit faire plus. Je suis le premier
à le reconnaître. C'est possible, c'est ce que vous visez.
De toute façon, tous les professeurs sont concernés par ce que je viens de dire. C'est-à-dire tous les professeurs entre 2017 et 2022 voient l'accomplissement d'abord de ce qu'on appelle le PPCR en termes techniques, c'est-à-dire un système de revalorisation des carrières. Et donc, tous vont connaître des améliorations salariales. Sont-elles suffisantes telles qu'elles sont programmées? Je pense que non, on doit faire plus. Donc, si vous voulez, c'est un peu étonnant pour moi qui suis le défenseur des professeurs, qui me définit comme le ministre des professeurs, qui suis totalement ouvert au sujet de la rémunération parce que je reconnais qu'il y a un sujet qui, encore une fois, a des racines anciennes. Au moment où on va justement se mettre autour de la table pour y travailler, d'avoir cette pression avec des gens qui ensuite essayent de faire croire qu'en quelque sorte je serai fermé et autoritaire.
Il vous faut convaincre, merci.
Non,
vous
n'êtes pas
tout seul.
Je suis fermé et autoritaire, je suis ouvert et je suis cohérent. J'essaye aussi d'être sérieux. Et enfin, je suis évidemment en situation d'avoir à protéger les élèves contre toutes sortes de polémiques qui sont inutiles.
Et le rapport de force vous sera favorable face à Bercy ?
Mais bien sûr que je dois discuter avec Bercy, c'est pas un enjeu de rapport de force, c'est un enjeu de lucidité pour l'avenir de la France. Un pays qui va bien est un pays qui investit dans son éducation. Je suis le premier défenseur de cela et je dis à certains syndicats qu'ils ont des analyses un peu courtes quand ils sont pas derrière leur ministre sur un tel sujet.
Vous demandez au syndicat d'être derrière votre ministre alors que vous négociez. Un petit sujet dans le sujet rapidement, puis on va passer à un sujet de soulagement pour vous. À Paris, par exemple, les loyers sont horriblement élevés, chacun peut le constater. Est-ce qu'ils sont compatibles avec un salaire mensuel net de 2 255 € en moyenne dans le primaire, 2 583 € net dans le secondaire pour les professeurs certifiés? Est-ce que c'est un sujet, est-ce que vous pouvez envisager d'aider les enseignants qui travaillent, qui sont mutés dans les grandes villes et qui font face à des difficultés de logement basiques ?
Totalement. Votre question est vraiment au cœur du sujet, parce que le sujet est un sujet salarial, mais c'est aussi un sujet de conditions de vie, de bien-être en général. Et il est exact que les situations ne sont pas les mêmes selon le plan géographique. Il y a l'Île-de-France qui est évidemment un exemple fort, mais par exemple à Annecy, vous avez le même genre de sujet, parce que les loyers sont très élevés dans cette région du fait de la frontière suisse. Donc il y a des endroits où on doit être en soutien des professeurs dans une politique du logement. C'est le genre de choses que j'ai commencé à engager. Tout ceci prend du temps, évidemment, et tout ceci nécessite du dialogue, du travail complexe. C'est ce que nous sommes en train de faire, en étant très pragmatique et très concret, et en regardant tous les aspects de la vie du professeur. Pour moi, ce qui est très important, moi je considère qu'on doit tous être d'abord, que toute la société française doit avoir une très grande estime pour ses professeurs, les respecter. Les respecter, ça passe aussi par une bonne rémunération, et ça passe par des bonnes conditions de vie, c'est-à-dire un bien-être matériel et immatériel des professeurs, et c'est à cela que nous devons travailler, et dans une atmosphère de sérénité.
Encore une fois, il y aura, de ce point de vue-là, par exemple, un effort qui sera fait dès la rentrée ? Enfin, au budget de 2020, pardon.
Oui, au budget de 2020, nous avons évidemment des mesures de soutien aux professeurs. Une qui commence dès septembre prochain, c'est pour tous ceux qui travaillent en réseau d'éducation prioritaire renforcé, qui auront une prime annuelle de 2000 euros. Elle était de 1000 euros l'année dernière.
Votre loi confiance pourra s'appliquer dès la rentrée. Ouf!
Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est
pour
une nouvelle.
Vous ?
Non, pour tous ceux qui sont concernés, parce que là aussi, le message n'est peut-être pas toujours parfaitement passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'emploient à caricaturer les choses, mais la loi pour l'école de la confiance, c'est d'abord et avant tout une loi profondément sociale.
On rappelle que c'est grâce à l'accord trouvé entre Sénat et Assemblée hier dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Un échec aurait retardé l'application. Là, ce sera le cas dès la rentrée. Au centre du texte, il y a l'instruction obligatoire dès 3 ans. Obligatoire ?
Oui.
Obligatoire ou il peut y avoir des assouplissements d'assiduité, par exemple ?
Alors, quand on dit instruction obligatoire à 3 ans, quelles sont les conséquences d'une telle chose ? D'abord, il y a une conséquence vraiment emblématique qui est la valorisation de l'école maternelle. Envoyer un message à toute la société française que l'école maternelle, c'est très important. Ce qui est corrélatif à ça, c'est des choses très concrètes. Par exemple, la visite médicale à 3 ans pour détecter le plus tôt possible les problèmes d'ouïe, de vue que peut avoir un enfant et qui conditionnent sa scolarité. Ça, c'est par exemple une mesure profondément sociale. C'est d'amener à l'école des enfants qui n'y vont pas aujourd'hui. C'est environ 25 000 enfants qui ne vont pas chaque année à l'école maternelle. Nous voulons les y emmener parce que ça correspond en plus aux milieux les plus défavorisés. Il y a un enjeu social, et je dirais même sociétal derrière cela. Et puis, c'est aussi toute une série de mesures qui vont avec cela. Par exemple, l'assiduité à l'école maternelle. Il est normal parfois qu'en petite section, en début d'année, cette assiduité ne soit pas totale. Mais il est normal aussi qu'au fil du temps, on prenne très au sérieux cette assiduité. Donc, progressivement, l'enfant aille à l'école parce qu'il se passe des choses extrêmement importantes à l'école maternelle pour l'enfant, notamment sur le plan de l'acquisition du langage. Et si on veut aller à la racine de la lutte contre les inégalités sociales, on doit faire en sorte que ces enfants aient du bain de langage grâce à l'école maternelle.
Question précise, réponse courte s'il vous plaît, monsieur le ministre. Tout ça peut poser des questions d'effectifs. Je vous donne un exemple. Une école maternelle à Gambais dans les Yvelines. Il y avait 3 classes de 26 élèves. À la rentrée prochaine, parce qu'il y a un des 3 enseignants qui a été muté, il y aura 2 classes de 32 élèves, 32 petits dans la même classe. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut travailler ?
Non, c'est pas normal. Et je vais regarder le cas que vous me dites, parce que normalement, la consigne que j'ai envoyée dans tout le système, c'est qu'on est de manière vraiment seulement très exceptionnelle, plus de 30 élèves par classe à l'école
donc
maternelle.
Donc ça n'est pas normal et vous, ça ne doit pas...
L'exemple que vous donnez, je le vérifierai parce que souvent on me dit des choses et puis quand l'autre fois j'étais quelque part en Dordogne, on m'a expliqué quelque chose comme ça, j'ai travaillé dès le lendemain à ça et je me suis aperçu que ce qu'on me disait n'était pas exact. Donc Mais en tout cas, l'objectif, c'est en effet la décroissance des effectifs à l'école maternelle, en CP, en CE1. C'est le sens des engagements pris par le président de la République lui-même.
Ah bah 24 pas plus, élèves, pas plus de 24 élèves par classe. Vous voyez, là, on en est loin. CP.
Oui, mais justement, mais d'où nous arrivons de loin sur ces questions. Et donc, ce serait paradoxal au moment où nous sommes en train de le faire. Et dès la rentrée prochaine, dès la rentrée prochaine, vous avez toute une série de taux d'encadrement qui s'améliorent dans toute la France. On pourra toujours citer telle ou telle exception. Mais la tendance pour chaque département de France, c'est un taux d'encadrement qui s'améliore à l'école
Gambet,
à l'école primaire.
Dans les Yvelines, vous allez regarder ça. Question précise, la droite au Sénat, ça fait partie du compromis qui a permis de faire passer votre texte hier. Vous voulez interdire le voile pour les sorties scolaires, c'est finalement abandonné. C'était trop crispant, trop sensible.
Je pense que c'est un sujet qui, en réalité, finalement, ne relève pas de la loi. En revanche, la promotion de la laïcité au quotidien, ça oui.
Vous avez demandé aux chefs d'établissement de recommander eux-mêmes, si c'est possible, de ne pas porter le voile dans les sorties.
Oui, c'est que les parents ne portent pas le voile.
Vous êtes quand même inquiet. Oui, les parents.
Heureusement,
donc vous n'êtes pas complètement rassuré.
Ah, mais vous le savez très bien, je suis très mobilisé sur le sujet de la laïcité. Nous devons être très attentifs à cette question. Nous avons pris toute une série de mesures en la matière pour la faire respecter. Nous avons même des équipes qui viennent dans les établissements lorsque des problèmes se posent. Et donc, nous sommes vraiment à l'offensive sur ce sujet. Vous savez que nous sommes aussi en situation de faire.
Ça a plus nuancé au sein du gouvernement, il y a des nuances. Votre secrétaire d'État, Gabriel Attal, lui, il était pour l'interdiction, vraiment, du voile.
C'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais il faut être très clair. Là, d'abord, il y a le sujet de l'interdiction du voile pour les élèves, c'est évidemment quelque chose qui est que nous faisons respecter à 100%. Ensuite, là, la question du voile des mamans accompagnatrices.
Il était contre, parce que j'ai fait un contresens. Oui, il était tout à fait contre l'interdiction. C'est ça, vous avez raison de dire que c'est pas tout à fait ça, c'est même le contraire. Oui. Il était tout à fait contre l'interdiction, vous êtes plus nuancé.
C'est ça, on peut dire plutôt ça, oui.
On peut dire plutôt ça. Ben voilà, sur cette rectification. Merci monsieur le ministre, vous partez à Cannes distribuer les Fables de La Fontaine. Ce sera un cadeau qui sera fait à tous les CM2 de France, c'est ça?
Il est
illustré par Vouch, votre fable préférée.
Le laboureur et ses enfants, parce que c'est une fable.
Vous la connaissez par cœur?
Non, mais je connais bien le sens.
Alors vous allez l'apprendre.
Et j'invite chacun à la lire, parce que c'est tout simplement l'éloge du travail. Lorsque le laboureur dit à ses enfants d'aller chercher un trésor au fond du champ, il remue la terre pour trouver le trésor. Il n'y a pas de trésor, mais en remuant la terre, ils ont fait que le champ soit fertile. Et c'est, je crois, une belle leçon sur le travail, l'effort et le fait que dès lors qu'il y a travaillé fort, la vie prend tout son sens.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce matin sur RTL.
Le ministre de l'Éducation cite La Fontaine, l'intégralité de l'entretien est à